Bonjour, bon dimanche et bienvenue ce 1er juillet dans cette réunion groupe de partage autour des enseignements non duels, autour du fait que nous sommes reliés, un, et que nous sommes tous interdépendants, l'humanité tout entière, qu'elle soit sur Terre ou ailleurs. Tous reliés dans un scénario, dans un rêve de réveil global qui se passe de plus en plus actuellement. Alors, je vais commencer comme j'aime le faire, avec un petit moment de conscience partagée au son de ce gong. Merci. Alors j'ai grand plaisir à vous accueillir, à la fois ces chers frères et sœurs qui sont ici dans ce salon ensoleillé, avec le doux chuchotement de la fontaine, avec le jardin, toute cette nature qui est là. Et j'ai grand plaisir aussi à t'accueillir, toi qui écoutes à distance et qui se joins dès maintenant à notre groupe. Et qui fait que, à part les jolies galettes tartinées avec des algues, eh bien, tu pourras profiter pleinement de notre partage grâce à l'enregistrement. Et comme il n'y a pas de temps, bah, tu es d'ores et déjà présent avec nous dans l'énergie. Alors, je vais présenter brièvement ce groupe en quelques phrases, donner quelques directions, et ensuite nous pourrons librement partager. Je dis souvent et je répète, le thème c'est notre vie d'humain. Hein. C'est pas forcément la non-dualité en tant qu'expérience vécue, hein, ça peut être la dualité en tant qu'expérience vécue. Toutes les expériences difficiles du quotidien. On m'a marché sur le pied au supermarché. Voilà, ça c'est une expérience extraordinaire qu'on peut raconter. Parce que ça, tout nous ramène à la non-dualité. Hein. Est-ce que je crois que, parce que j'ai mal au petit orteil, je suis quelqu'un de vulnérable? Est-ce que quand je pousse mon caddie et que je rentre dans le dos de quelqu'un, est-ce que je suis en train de commettre une faute, hein, ou des choses apparemment banales, mais qui peuvent tout le temps nous donner une occasion d'aller vers l'essentiel. Et l'essentiel, c'est notre nature profonde, au-delà du véhicule terrestre, au-delà du véhicule humain. La nature, c'est notre essence. Hein. Souvent, nous disons, nous sommes des divinités qui jouent à se croire humains. Voilà. Et il va s'agir de parler de ces différents niveaux de perception aujourd'hui. Comment passer de l'un à l'autre? Comment pouvoir sortir des perceptions duelles que nous connaissons, pour de plus en plus aborder le monde d'une manière, avec un regard différent. On peut utiliser beaucoup d'outils pour ça. Il y a beaucoup de livres qui existent. Il y a énormément de chemins pour se réveiller, parce qu'il y a énormément de façon de se réveiller et de voix qui nous invite à nous réveiller. On dit tous les chemins mènent à Rome, hein, et dans ce cas, Rome c'est notre essence, c'est notre cœur. Et ce groupe est aussi un des moyens qui passe à travers nous pour nous inviter à nous réveiller, à sortir du rêve. Donc aujourd'hui, on pourra aborder des sujets assez différents les uns des autres, en fonction du contexte, en fonction de ce que aussi nous sommes guidés à dire ou à ne pas dire, à rester en silence ou à parler. Je vous invite à considérer que dans le silence aussi, il y a des échanges qui se font sur un autre plan. Et puis, cet après-midi, je la dédie entièrement et je laisse son contrôle à l'esprit qui nous dirige et qui nous que je laisse s'exprimer à travers moi lorsque c'est juste de le faire, ou que je laisse patienter sans rien dire lorsque c'est juste aussi de le faire. Et pour mieux l'inviter, pour mieux laisser mon ego coucher à mes pieds, comme un dragon qui dort, qui arrête de cracher des flammes. Alors je vais citer cinq phrases que je cite régulièrement dans ma vie et dans ces groupes, qui sont issues d'un cours en miracle et qu'on retrouve à la page 30 et qui parlent de lâcher le contrôle sur les choses et les paroles. Et elles disent « Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire, ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi, je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. » Alors ces phrases m'invitent profondément à rester dans l'instant présent, à ressentir l'instant présent, à ressentir ce qui a envie d'être dit, à ressentir les pensées qui surgissent en moi, à ressentir les idées, les graines qui sont semées dans mon esprit, qui se développent, et à les partager, et à ne pas projeter quoi que ce soit sur la finalité, sur la continuation, sur le développement de cet après-midi que nous passons ensemble. Voilà, et puis sur place, je crois utile de rappeler qu'il y a un certain nombre de livres en vente à prix coûtant qui parlent de non-dualité, qui ont souvent pour auteur Yeshua ou Jésus en tant qu'énergie, mais pas uniquement, mais qui ont en commun le fait de nous parler de notre essence profonde, de l'aspect divin que nous avons choisi d'incarner en tant qu'humain sur Terre. Alors récemment, il y a un livre qui m'a énormément parlé, que j'ai commencé simplement à feuilleter un petit peu sur une version gratuite réduite de Paul Ferrini, L'Évangile selon Jésus. Et merci beaucoup à Didier Bonneville qui a été l'instrument par lequel j'ai pris connaissance de ce merveilleux cadeau. Alors c'est aux éditions Oxus, et c'est sous-titré Un Nouveau Testament pour notre époque. Voilà, c'est non-duel et c'est absolument pas relié à une religion quelconque, à part dans le fait de dire que religion, c'est se relier à soi-même. Voilà, alors nous le citons énormément, Un cours en miracle, un gros livre bleu, 2300 pages, composé de trois sous-livres qui sont reliés ensemble, reçus vers la fin des années 60, en dictée intérieure pendant 7 ans par une personne psychologue. qui ne croyait pas du tout à la spiritualité, qui était athée et qui a eu la voix, l'injonction intérieure qui disait « Ceci est un courant miracle, s'il te plaît, prends note. » Et cette voix n'a pas cessé jusqu'à ce qu'elle prenne note. Et ça a donné cet ouvrage extrêmement dense et que pour moi il est possible d'ouvrir à n'importe quelle page. Et parfois c'est très surprenant la synchronicité qui peut se passer lorsque j'ouvre ce livre à une page précise. D'ailleurs je me sens guidé à le faire. Le Saint Seigneur du ciel est lui-même descendu jusqu'à toi pour t'offrir ta propre complétude. Voilà ce que j'ai trouvé au chapitre 24, qui s'appelle « Le but de la particularité ». Alors, on pourra développer, bien sûr. Et puis, un livre reçu par Jane Roberts, aussi à peu près à une époque dans les années 70, que je trouve exceptionnel pour un ouvrage aussi ancien, parce qu'il est extrêmement explicite. Merci à Céline qui m'a prêté ce livre, qui s'appelle « Seth parle », S-E-T-H, sous-titré « L'éternelle validité de l'âme ». Et voilà, les livres, il y a peu de livres aussi anciens qui parlent de notre réalité profonde d'une manière aussi explicite. Du plan physique, du plan non physique. Et voilà, certainement que j'en reparlerai lorsque j'aurai un peu plus avancé dans la multilecture que j'ai en ce moment de plusieurs ouvrages à la fois. Je pense que je ne suis pas le seul. Alors, quelques directions de cet après-midi. Par exemple, dans toute situation, il n'y a que des choix d'amour ou des choix de peur. Chacune de ces directions pourra ou non être approfondie selon la circonstance. Comment mieux percevoir notre nature véritable? Le sens du mot « Dieu » dans la non-dualité, différent de celui... dans les religions établies, les religions basées sur des dogmes. Identifier l'ego comme la croyance d'être séparé. Réalité et illusion, les deux niveaux de notre perception. Comment être dans le monde sans être du monde. La vraie guérison relève de l'esprit. La nature du voile de séparation que nous percevons, comment notre réalité profonde est voilée par la séparation que nous vivons. Qu'est-ce que le plan divin pour l'humanité? Comment puis-je apprivoiser l'ego et le remettre à mon service? Comment le monde subtil est en permanence à nos côtés et à notre service pour nous fournir de l'aide en permanence. Pacifier notre vie avec le vrai pardon. Choisir d'être heureux plutôt que d'avoir raison. Et bien d'autres directions qui pourront venir d'elles-mêmes s'imposer à nous lorsque les situations évoquées les rappelleront. Voilà, je me sens très tranquille d'être avec vous, sans aucune appréhension sur ce qui va se passer, sur le déroulé de l'après-midi. Je pourrais continuer en disant une phrase qui est censé contenir toute vérité possible, qui se résume à seulement deux mots, et qui dit « Dieu est ». Dieu étant la nature de toute chose, visible et invisible, la totalité de ce qui existe dans le cosmos, et non pas un concept réducteur ou prôné par... les grandes religions établies sur Terre, la plupart d'entre elles. dans ce sens-là, Dieu est tout ce qui est, et une façon d'étendre cette phrase, c'est de dire que Dieu ne peut jamais s'opposer à rien étant tout ce qui est, puisqu'il s'opposerait à lui-même. Donc, Dieu ne s'opposant à rien, accueille tout, ne juge rien, et ne connaît qu'un seul mot, d'accord. Quoi que je dise, quoi que je fasse, quoi que j'imagine, quoi que je pense, quoi que je veuille, d'accord. Je suis aussi Dieu, puisque, à part Dieu, rien n'existe. Il n'y a rien à part lui, est une phrase citée de la Kabbale, hein, qui est sur le petit cadre carré, qui est près de la porte des WC, sous une forme circulaire. Circulaire, parce que c'est toujours, on en revient toujours à la même chose. Il n'y a rien à part lui. Et donc, je suis en lui. Hein, lui avec un L majuscule. Lui qui est moi, et moi qui suis lui. Même si j'ai des perceptions qui semblent différentes dans ce rêve, ce scénario, cette pièce de théâtre que j'ai jouée pour expérimenter que seraient les choses si je n'étais pas divin. Que serait le non-amour s'il pouvait exister? Et bien sûr, c'est une hypothèse parce que Dieu étant tout ce qui est et Dieu n'étant qu'amour, alors rien à part l'amour ne peut être vrai. Et l'amour ne peut pas être menacé dans le sens de l'introduction d'un cours en miracle, parce que l'amour est réel. Hein. Le cours en miracle dit « Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe, en cela réside la paix de Dieu. » Donc, lorsque je suis dans le réel, je suis forcément dans la paix de Dieu, dans l'amour, et ce n'est pas menaçable, ce n'est pas changeable. Lorsque je suis dans la peur, c'est irréel, puisque c'est hors de l'amour, et ça, donc ça n'existe pas, au sens ça n'a pas de réalité, c'est imaginé, hein, c'est supposé, c'est vécu comme un rêve ou un cauchemar, selon, souvent comme un cauchemar d'ailleurs. Et tout ce qui est menaçable n'existe pas réellement, est imaginé. Tout ce qui un jour cessera d'être est le fruit d'une imagination qui dit que seraient les choses si ce n'était pas divin, si ce n'était pas issu de l'amour, si c'était périssable. Hein. Donc tout ce que vous voyez, y compris notre corps, même s'il a une utilité remarquable, n'existe pas en réalité. Hein. Alors nous ne nions pas les expériences, nous ne nions pas le rêve. Le rêve aussi, qu'on appelle dualité, a son utilité pour inventer des choses qui n'existaient pas, pour voilà, créer des choses, fabriquer un monde qui nous enseigne quand même quelque chose en imaginant que le non-amour puisse être. Donc pour certains, ça peut paraître étonnant hein, de dire ça. Et puis, en même temps, au fond de chaque être humain, il y a un appel à se réveiller qui est de plus en plus fort. Manifestement, il y a une sorte de bascule qui est en train de se produire, semblerait-il actuellement, dans l'humanité, qui fait que nous basculons, nous entraînons le reste de l'humanité dans une conscience plus élevée, qui, nous, bah, les personnes qui sont plus en conscience, plus conscientes de leur divinité, de leur lumière, ont atteint, semblerait-il, la masse critique de 1,5% de la planète, de l'humanité terrestre, de manière à influencer autour d'eux tous ceux qui, aussi intuitivement, n'attendent que le feu vert pour se réveiller. Donc 35 millions d'humains ou plus est un nombre suffisant pour faire assez de vagues autour d'eux pour entraîner un grand tsunami, une grande bascule de conscience. et je m'en réjouis. Hein. Et qui est à l'origine de ça? Bah, ce qu'on appelle les artisans de la lumière, les travailleurs de la lumière. Qui est artisan de la lumière? Qui est travailleur de la lumière? Celui qui sait ce que ces mots veulent dire. Celui qui sent la lumière en lui ou en elle. Et ça ne fait pas d'eux des êtres différents ni supérieurs. Le principe de la création, c'est l'égalité, hein, c'est la fraternité. Donc il y a que des niveaux d'évolution différents, mais nous sommes foncièrement égaux. Il y a des chemins d'avancement qui ont plus d'expérience, apparemment bien sûr, puisque ça ne se passe que dans notre illusion de dualité. Donc toi qui écoutes ces mots, tu es un artisan de lumière, puisque tu as senti de manière de plus en plus pressante l'envie de te réveiller. Et il y a également l'envie de plus en plus pressante de se mettre au service qui est vécu par ces mêmes artisans de la lumière. Se mettre au service, c'est rentrer à l'intérieur profondément, écouter la voix intérieure profonde, n'écouter qu'elle, et rayonner, et laisser naturellement rayonner cela sans rien avoir à faire de spécial. Dit Jésus, hein, dit Jésus dans l'évangile selon Jésus en particulier. Il n'y a pas besoin de s'occuper de qui que ce soit, mais notre propension naturelle, lorsque nous sommes connectés au cœur, c'est de donner toujours, donner, donner, donner. Et quand vous donnez, ben ça fait énormément de vagues autour de vous, parce que ça rappelle aux autres que eux aussi, ils ont envie d'aimer, de donner, et que lorsqu'ils donnent, eh bien, ils se donnent à eux-mêmes, et ils s'aident à se réveiller. Et ainsi, toute l'humanité est dans ce mouvement-là, progressivement. Jusqu'au jour où ça va se passer de manière beaucoup plus tranchée, puisque voilà, il y aura suffisamment de personnes réveillées pour décider de structures qui sont elles-mêmes à l'image de cette conscience, et puis ceux qui ne reflètent pas cet état de conscience seront naturellement mis de côté, hein, sans aucune haine, ni aversion, ni jugement. Mais comment est-ce possible d'élire Hitler si 80% de la population ne partage pas ses idées? Je dis 80%, mais ça peut être même beaucoup moins. C'est impossible, parce que élire Hitler relève d'un état de conscience qui reflète les idées et les croyances d'Hitler. Donc bien sûr, nous aurons le monde qui reflète notre état de conscience, et nous aurons les dirigeants qui reflètent notre état de conscience. Et si notre état de conscience change, attendons-nous à ce qu'un nouveau monde fasse progressivement son apparition, accompagné de toutes les structures adéquates. Ce que beaucoup nomment en ce moment l'âge d'or ou la nouvelle terre ou la cinquième dimension et bien d'autres termes qui sont tous similaires. Voilà, ceci est prédit pour maintenant, ceci paraît-il en train de se dérouler. En même temps, je suis guidé à ne pas avoir d'attente avec ça, ni sur les dates, ni sur les événements terrestre ou psychologique ou sur les personnages quelconques qui pourront jouer des rôles plus importants apparemment que d'autres. Voilà, notre rôle, c'est de jouer, de poser notre signature sur ce que nous faisons à 100%, être à 100% guidé par l'espace de notre cœur, et lorsque nous faisons ça, nous laissons ça influencer notre vision du monde, hein. Nous laissons notre vision du monde changer grâce à un changement qui est avant tout celui de l'intérieur. Voilà, j'étais guidé à dire tout ça et maintenant je suis guidé à laisser la parole à quoi que ce soit qui puisse être juste pour vous de dire, qui puisse résonner comme vrai pour vous, sur lequel nous pourrons nous-mêmes surfer, hein, pour à nouveau donner une vérité qui nous apparaît, hein, comme juste à ce moment-là. Ou à cette époque-là. Et chaque intervention et chaque silence est juste. Et sentez-vous libre de le manifester au moment où c'est là. Hein. Vous pouvez demander à n'importe quel moment, y compris au milieu de l'intervention de quelqu'un, à dire quelque chose qui est présent pour vous. J'ai parlé.
Je voulais raconter deux anecdotes. La première qui s'est déroulée hier, dans les transports en commun, où j'ai commencé à discuter avec un monsieur. Et puis très vite, il est venu à dire qu'il était scientifique, matérialiste, et que pour lui, 1 plus 1 était égal à 2. Et donc, je lui ai dit que j'étais absolument pas scientifique. J'avais très peu de connaissances, mais que pour moi, je croyais que 1 plus 1 était égal à 1. Ce qui fait que ça l'a étonné, interrogé. Et puis ensuite, on était dans le train, à côté d'un monsieur. Je sentais que ce monsieur était à l'écoute de ce qu'on disait. Puis à un moment, je sais pas... Je lui parle de Einstein en lui disant qu'il a fait une relation entre la matière. Parce qu'il me parle, ah oui, il disait que tout était matière. Alors je lui dis, mais il me semble quand même qu'Einstein, il a fait une relation entre la matière et la lumière. Et aussitôt, le monsieur a embrayé en disant, celui qui était à côté de nous, en y apportant sa connaissance. Et ce qui fait qu'on était trois à dialoguer. Puis à un moment, je dis, bah... En fait, 1 plus 1 plus 1 égale 1. Et je leur dis, bah oui, on est animé d'une même énergie. Et ce qui était fabuleux, c'était que il y avait vraiment une communion. C'était celui qui était à côté de moi me disant, oh, ça fait du bien de parler dans les transports, c'est tellement rare. Et puis donc, le premier monsieur qui avait commencé la discussion s'en va. Un autre monsieur arrive, et puis je voyais bien qu'il souriait, il avait la main devant la bouche. Puis je continue en disant, voyez, celui qui vient de s'asseoir, c'est pas anodin s'il vient s'asseoir là. Je vois qu'il sourit, je vois qu'il a envie de dire quelque chose. Alors il enlève sa main de la bouche, mais il n'ose pas parler, mais il y avait un grand sourire, et c'était vraiment du grand bonheur. La deuxième anecdote, c'est que j'ai commencé à lire Un cours en miracles depuis lundi. C'est comme si j'étais guidée à le lire à voix haute, pour moi-même, pour l'univers. Un grand processus de nettoyage qui s'opère, des libérations émotionnelles, des prises de conscience. Et ce qui est fabuleux, c'est la confiance absolue en si peu de temps qu'a pu s'installer envers mes enfants. de lâcher complètement, d'être capable de leur dire, enfin en tout cas à l'une pour l'instant, d'être dans la confiance absolue sur leur devenir, sur ce qu'ils, sur ce qu'elles représentent. Ça fait du bien. Il y a une paix plus profonde qui s'installe, un amour qui peut se déverser plus grand. Alors je dis merci pour tous ces cadeaux.
Tout à l'heure, avant de commencer ce groupe officiellement et l'enregistrement, nous parlions entre nous et un point est arrivé, c'est le point de ce que nous connaissons bien, c'est cette impression que il faut attendre d'être prêt pour faire les choses et que pour avancer sur le chemin, mais il faut attendre d'avoir acquis quelque chose, en particulier de la spiritualité, par exemple, ou une vision différente. Alors, en fait, le chemin lui-même est le but. Nous sommes l'origine, le chemin est le but, puisqu'il n'y a que l'amour, nous sommes l'amour. Et nous avons choisi une expérience, on peut dire illusoire, temporaire, pour s'amuser, pour nous amuser, où nous imaginons identifier un personnage particulier, un véhicule particulier, avec l'ego, c'est-à-dire avec le sentiment d'être séparé du reste, de tout le reste qui n'est pas nous. Cette vision-là, elle entraîne automatiquement l'impression d'être absolument nul, d'avoir des besoins immenses, d'être pas compris, d'être rejeté, d'être en danger, d'être vulnérable. D'avoir besoin d'attaquer et de défendre soit nous-mêmes, soit les autres. Donc on attaque les autres qui menacent soit nous-mêmes, soit nos enfants, soit notre monde, notre petit club, notre famille, notre pays, notre région, tout ce que vous voulez. Voilà. On a l'impression d'avoir des choses à faire. Et dans l'évolution spirituelle, parce que si on est là les uns les autres à parler, à écouter cet enregistrement, c'est qu'il y a une attirance, il y a vers quelque chose. Et pendant relativement longtemps en apparence, c'est-à-dire des successions d'instants présents, il y a l'impression d'être sans cesse en ajustement de quelque chose. Et en fait, on est observateur d'un ajustement qui se fait tout seul. Et donc cette idée d'avoir des choses à atteindre et d'attendre d'être plus ou moins parfait pour pouvoir avancer vient totalement de l'ego et du sentiment de séparation. C'est pour ça qu'on commence progressivement à comprendre qu'il y a une notion qui est absolument fondamentale, mais à tout instant, c'est la notion de qui nous sommes, de quoi nous parlons, qu'est-ce qui nous appelle. Ce qui existe, la vie, le vivant, est tout. Dieu est tout ce qui est. C'est un concept de dire ça, bien sûr. Tous les mots sont des concepts. Dieu est tout ce qui est. Alors la nature, on va dire la vie. La vie, c'est quoi? Ben la vie, c'est la vie. Et donc, si on regarde autour de nous, dans ce monde qui nous paraît séparé de nous, on voit du minéral, du végétal, de l'animal, de l'humain. Et puis même des extra-humains, des extraterrestres, etc. Un univers multidimensionnel dont nous recevons de plus en plus d'informations. Et puis tout ça ne cesse d'apparaître, de sembler durer un certain temps et de mourir, c'est-à-dire disparaître. La nature, c'est comme ça. La nature, elle est terrifiante, elle s'autodévore tout le temps. Et donc il y a un paradoxe immense, la nature, elle s'autodévore et en même temps, elle est un symbole de notre unité, de que tout ce qui est. Tout à l'heure, Avid disait que nous sommes appelés à donner, et effectivement, ce qui est réel se donne. Le vivant, l'esprit, ce qui est éternel, est amour, et donc est toujours en création, c'est-à-dire en don de soi-même, en don de lui-même. Et ça, c'est qui nous sommes. Si on regarde la nature, tout le monde dévore tout le monde. Vous regardez une couvée de canards, vous regardez un petit lionceau, etc. Et vous allez voir l'origine, vous remontez de plus en plus, vous voyez des dinosaures, vous voyez des pterodactyles, vous voyez d'autres époques, vous voyez des hommes de Cro-Magnon, un tas de choses. Et tout ça, c'est mort. Ça a disparu. Et pourtant, tout vient de là. Tout ce qu'on voit vient de là. Dans un monde une nature qui ne cesse de se développer et de mourir à elle-même, c'est-à-dire de se transformer. La différence entre les animaux et nous, c'est que les animaux ne vivent que l'instant présent et n'ont pas la réflexion sur eux-mêmes. Ça ne veut pas dire que c'est pas la vie, le vivant. Il n'y a qu'une seule force de vie. Nous sommes cette force de vie. Et donc là, il y a un mystère de la conscience. Qu'est-ce que c'est qui nous sommes vraiment? Et cette conscience, elle est une. Donc, cette nature qui s'autodévore, qui peut sembler extrêmement cruelle, parce que c'est exactement ça, même les chats qui sont tellement adorables, ils passent des heures à guetter un oiseau pour le dévorer s'ils peuvent et l'attraper, bien sûr. Alors on dit un chat c'est formidable. Mais si c'est un être humain qui essaie d'attraper un oiseau, on dit c'est un monstre. Vous voyez donc, on est sans cesse en jugement par rapport à ce qui se passe. Et donc, j'ai commencé cette intervention en rappelant ce dont nous parlons tout à l'heure, avant le groupe, qui est, nous avons l'impression qu'il faut que nous atteignions un certain état pour pouvoir avancer. Donc, je dirais, moi, je vais m'occuper de la spiritualité quand j'aurai trouvé un job. Ou je commencerai à m'occuper de la spiritualité ou d'une autre vision de moi-même quand j'aurai trouvé un compagnon, une compagne, ou bref, ou autre chose. Ça vient de ma vision. Ça vient de cette vision d'ego. Je reviens à l'essentiel, c'est vers quoi allons-nous? Vers le rappel de qui nous sommes et de qui nous avons toujours été, de qui nous sommes éternellement. Dieu est tout ce qui est. La vie est vie. Alors évidemment, nous constatons, et on en parlait tout à l'heure en arrivant ici, que de plus en plus de documents nous sont donnés, des livres, de plus en plus de livres sont écrits, des canalisations, des informations. Mais ça parle de quoi? Toujours la même chose. Ça parle toujours d'un regard sur ce qui est. Ce qui a toujours été et ce qui sera toujours. Alors on dit un être éveillé, est-ce qu'il fait ça? Mais qui est éveillé? Qu'est-ce que ça veut dire être éveillé? Être éveillé, c'est avoir la vision que tout est éveillé, que tout est Dieu, que la vie est une. Et l'éveil, c'est un rappel de qui nous sommes, c'est la vision de ce qui a toujours été là. Donc, on peut dire, c'est une façon de parler, qu'un éveillé ne voit que des éveillés, mais il voit plus qu'un seul éveillé, on peut dire. C'est des façons de parler qui forcément sont duels. Je dis souvent que ici, dans cette expérience humaine, nous utilisons des mots duels, ils sont forcément duels. Parce que nous avons choisi une expérience duel. Qu'est-ce que ça veut dire duel? C'est une expérience de séparation. Une expérience où nous avons point commun ici, les 7 milliards que nous sommes, c'est que nous sommes identifiés à un corps particulier, avec un prénom, un nom, avec un certain conditionnement, un entourage, une famille, un pays, une région, etc. Des aventures dites personnelles. Ça, c'est l'illusion. Et elle est très très bien faite, elle est gigantesque. Alors qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Qu'est-ce que c'est que cet appel que nous avons en nous? C'est un appel à nous réveiller à ce qui existe vraiment et qui n'a rien à voir avec l'apparence. L'apparence séparée. Ce qui existe vraiment n'a rien à voir avec un monde extérieur. Extérieur à quoi? Ben extérieur au petit personnage que nous croyons être. Alors, comme cette illusion est très bien faite, on a vraiment l'impression d'avoir des problèmes à résoudre, on a vraiment l'impression que la réalité c'est bien notre monde physique, et qu'on a vraiment des problèmes, et qu'on est vraiment victime, et qu'on a des choses à résoudre, on a des gens à protéger, des enfants à nourrir, etc., etc., et que sans nous ils vont périr, ou ils vont avoir des difficultés. Il faut s'occuper des élections, il faut s'occuper de nouvelles façons de vivre ensemble, il faut s'occuper des lois, il faut aller acheter le journal, il faut discuter, il faut avoir des opinions politiques, des opinions religieuses, des opinions sur tout. Voilà l'ego. Est-ce que Dieu a une opinion? Est-ce que Dieu a une opinion? Est-ce que l'esprit a une opinion? Le cours en miracle nous dit qu'effectivement il y a un jugement. C'est ce que Jésus appelait il y a 2000 ans le jugement dernier. Mais évidemment, c'est le jugement, c'est la vision que tout est parfait. C'est ça le jugement dernier. C'est « Tu es mon fils bien-aimé en qui je me réjouis. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute ma confiance. » Et évidemment, c'est dit à chacun d'entre nous. Donc en ce moment, vous qui écoutez ces paroles-là, que je suis en train de dire, de partager, eh bien, c'est comme si, je dis, c'est mon mental évidemment qui dit ça, c'est ok. C'est comme si Dieu vous dit, toi, tu es mon fils bien-aimé, toi, tu es ma fille bien-aimée, en qui je me réjouis et en qui je mets toute ma confiance. Mais c'est vraiment ça. Alors bien sûr, c'est une voix d'ego qui dit ça. Je vais dire pas une voix duelle, une voix qui parle le langage du monde. Mais c'est une voix qui voit avec la vision de Dieu, qui est votre vision, qui est notre vision à tous, puisque nous sommes cela. Et donc on ne quitte pas de vue, on ne quitte pas de vue ce qui est réel. Et c'est la seule manière d'avancer sur ce chemin. Et donc quand je me dis, mais il faudrait que j'atteigne tel état, que je sois éveillé, que je sois plus parfait pour pouvoir partager, pour pouvoir apporter une aide sur cette planète, c'est mon ego ça. Et j'ai l'illusion de croire que par moi-même, par le petit personnage que je crois être, je fais quelque chose de particulier, mais rien du tout. Je laisse l'esprit, je laisse la lumière vivre sa vie, vivre la vie à travers moi, à travers le personnage. Et nous sommes invités à faire pareil. Mais qui est la lumière? C'est nous. Et donc le petit personnage n'est pas nous, et pourtant, la seule sortie de ce rêve, de cette pièce de théâtre incroyable dans laquelle nous semblons enfermés, c'est par l'amour, c'est par qui nous sommes qu'on en sort. C'est-à-dire en aimant cette pièce, en aimant le personnage, en aimant tout ça, tout ce jeu fantastique. Et quand je dis aimer, une fois de plus, ça veut dire accueillir, ça ne veut pas dire cautionner, ça ne veut pas dire c'est bien ou c'est mal, ça veut dire j'accueille. J'accueille maintenant, j'accueille ce qui se passe. J'accueille tous les systèmes, tout ce qui se passe, toutes les émotions de mes frères et sœurs, tous les essais, les tentatives. Tous les départs, les venues, les départs, les suicides, n'importe quoi, j'accueille tout. Et quand je fais ça, je suis la vie. Tout à l'heure, Avi nous rappelait que Dieu n'a qu'un seul mot, d'accord. Eh bien, c'est ça, on dit d'accord. Et là, on expérimente quelque chose de différent. Là, évidemment, c'est la mise en pratique de ce dont nous parlons. Et c'est ça la grande chose, c'est que la mise en pratique, elle se fait tout de suite. Et il n'y a pas besoin d'attendre un état, il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir changé, d'avoir atteint un état plus parfait, d'être plus reconnu par les autres, plus d'avoir écrit un livre, d'avoir fait je ne sais quoi. Non, j'accueille qui je suis et qui nous sommes. j'accueille qui je suis, qui sont mes frères et sœurs, vraiment. Évidemment, je ne sais pas, même mon petit personnage que je crois être, ne sait pas, n'a pas cette vision. Et c'est pour ça que le courant miracle nous dit, de l'intérieur du système de pensée de l'ego, vous ne pouvez pas vous en sortir. Il vous faut quelque chose qui est extérieur. Ce quelque chose d'extérieur, ben c'est vous, mais c'est l'esprit que vous êtes, c'est le Christ que vous êtes. C'est l'expression divine que vous êtes, comme un rayon de soleil est l'expression du soleil, la manifestation du soleil. Donc cette notion, j'ai quelque chose à atteindre, il faudrait que je change, il faudrait que je sois meilleur, il faudrait que je sois moins en colère, il faudrait que je sois plus altruiste, tout ça, c'est pas la peine. Non, j'ai des pensées non altruistes, ok, je les accueille, je les embrasse. Donc je m'accueille moi-même avec mes impressions d'être le petit enfant vulnérable qui a peur, qui se cache, qui a honte évidemment de sa petitesse. J'aime tout ça, je l'accueille. Quand je fais ça, évidemment, je le fais automatiquement pour tous mes frères et sœurs. Et quand je fais ça, et quand nous faisons ça, parce que nous savons tous très bien de quoi nous parlons ici, bien, nous sommes vraiment dans l'amour. Nous sommes vraiment dans l'amour assez simple, rien de plus simple. Et nous savons très bien ce que c'est parce que nous sommes cela. Et c'est ensemble que nous nous rappelons. Et comment est-ce que nous nous rappelons ensemble? Par nos relations. Et là, je viens de dire nos relations, je viens d'employer le pluriel. Mais en fait, par exemple, le courant miracle parle essentiellement de ta relation, la relation. Évidemment, nous n'avons qu'une seule relation, qui est la relation avec chaque être, chaque objet, chaque chose, avec lesquels nous sommes en interaction dans cette pièce de théâtre, où nous sommes identifiés à un petit personnage particulier. Donc j'ouvre les yeux, je vois un homme, une femme, un chat, quelque chose, une étoile, et je dis, je t'accueille. Je ne sais pas ce que c'est là, mais j'accueille. Et c'est cette relation-là qui devient la même pour tous, pour toute chose et pour tout être. C'est une relation amoureuse, c'est-à-dire une relation d'accueil total. Et donc je m'occupe plus de savoir si j'ai à changer, ou être moins en colère, ou à devenir bio, ou arrêter de manger de la viande, ou arrêter de fumer, ou n'importe quoi. Ok, d'accord, j'observe, bon, pourquoi est-ce que j'ai des émotions par rapport à telle ou telle attitude, très bien, puisque je m'accueille avec ça, donc tout m'enseigne. J'observe le personnage avec mes réactions, mes rejets de moi-même. J'observe aussi peut-être ça chez les autres, mais je commence à avoir de plus en plus une attitude amoureuse, complètement amoureuse, totalement amoureuse. Donc cette notion, j'ai quelque chose à atteindre, non, ça a disparu complètement, j'ai rien à atteindre. J'ai à aimer maintenant, j'ai à accueillir maintenant. Et quand je dis j'ai à accueillir, j'ai rien à faire, mais c'est une invitation profonde parce que c'est là que je vais trouver ma vraie joie. C'est là que je vais retrouver la liberté que je suis, la joie que je suis, le bonheur que je suis, que nous sommes tous. C'est par nos relations amoureuses. Et évidemment, c'est maintenant. Et si je me laisse aller à des souvenirs passés, et c'est facile, et moi je le fais souvent, j'adore ça. Je me revois à 4 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, à tel endroit en Allemagne, au Japon, au Danemark, à tel endroit en Afrique, au Ghana, où vous voulez, aux États-Unis, en France, dans le Midi, vous voyez, et comme ça vous allez voir, vous regardez, et puis vous, des personnages apparaissent, des relations, et puis, naturellement il y a un merci, merci à toi, merci mon frère, merci ma sœur, ah oui. Ah oui, t'as toujours été là. Il y a comme presque des larmes qui viennent, des larmes d'amour, de retrouvailles. Et souvent, nos guides nous parlent justement de guérir le passé, mais c'est ça, c'est maintenant. Et quand les souvenirs vous viennent par rapport à des... Et c'est facile. Et surtout, ne nous gênons pas de faire ça. Et là, il y a vraiment... maintenant, puisqu'on dit que l'instant présent, il y a vraiment la guérison. Parce que le temps n'existe pas. C'est pour ça que souvent on dit « vous pouvez guérir le passé ». Ça paraît bizarre, mais c'est des façons de parler parce que le passé n'existe pas. Le passé n'est qu'un souvenir qui est toujours, disons, vu au présent, dans l'instant présent. Effectivement, regardez tous ces souvenirs passés avec amour, avec reconnaissance. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est qui nous sommes. Et puis évidemment, naturellement, faisons ça, la culpabilité disparaît, et puis qu'est-ce qui va disparaître aussi? La peur par rapport au futur, parce qu'il n'y a plus que l'accueil du futur aussi, de ce qu'on imagine comme étant le futur, qu'on ne connaît pas. Mais il y a déjà cet émerveillement de l'amour qui dit, mais vraiment je vais tout aimer parce que tout est amour. Donc où est la peur? Est-ce que j'ai peur de rencontrer telle ou telle personne, d'être dans telle situation? Non, puisque tout est amour. Donc, mon frère, mes sœurs, y compris même d'ailleurs maintenant, puisqu'on en parle de plus en plus, même des extraterrestres, d'autres êtres, d'autres mondes, bienvenue. Bienvenue dans nos relations futures, bienvenue dans cette danse qu'on a ensemble. C'est là que ça se passe. C'est dans cette vision amoureuse qui se fait quand? Mais maintenant, c'est toujours maintenant, donc c'est toujours au présent. Mais cette vision amoureuse, elle n'a aucune limite, et donc elle englobe tous les concepts apparemment passés, tous les souvenirs passés, comme toutes les choses imaginées apparemment futures. Et c'est toujours maintenant, c'est toujours dans l'instant présent. Et ça, quelle merveille! Une merveille. Donc, je n'ai rien à atteindre, je n'ai rien à changer, je n'ai qu'une seule chose à faire, et pour mon propre bonheur, pour ma propre joie, parce que je le veux vraiment, c'est la volonté une que nous avons tous, c'est de nous rappeler l'amour, de nous rouvrir à l'amour, et de laisser parler notre cœur. Et dans l'ouverture à l'amour, il n'y a aucun risque, parce qu'il n'y a que l'amour et rien d'autre. Est-ce que l'amour, est-ce que ce qui est peut nuire à lui-même? Ça n'a pas de sens. Donc tout est soigneusement pris en charge par l'amour lui-même. C'est pour ça que le cours dit dans cette fameuse leçon 135, que ne pourrais-tu accepter si seulement tu savais que tout ce qui arrive, tout événement, passé, présent et futur, est planifié avec douceur et bienveillance par l'un, par quelqu'un, avec un Q majuscule, c'est-à-dire par l'Esprit, ce que le cours appelle le Saint-Esprit, par l'un dont le seul but est ton bien, et le bien de tous. Et c'est la magnificence du plan divin, où tout est fait pour le meilleur de nos intérêts. Comme dit le cours en miracle, tu ne sais jamais pourquoi sont faites les choses, mais toutes les choses sont faites pour le meilleur de tes intérêts et des intérêts de tous tes frères et sœurs. Alors, tu n'as rien à changer, tu es aimé tel que tu apparais, parce que cette apparence n'est pas vraiment qui tu es. Qui tu es, c'est la magnificence infinie de qui je suis.
Alors, j'ai ouvert au hasard l'évangile selon Jésus, et je vous promets, j'ai pas fait exprès. Et j'arrive sur le, en gros caractère, le sexe comme communion des corps. Et en sous-titre, faire l'amour est un acte sacré. Bon, alors je demande pardon par avance à l'Église pour ces mots qui sortent de la bouche de Jésus en tant qu'esprit. C'est une blague, hein, parce que je me sens pas du tout en faute en disant ces paroles-là. Et en même temps, je suis quelqu'un qui enseigne le tantra. Et dans le tantra, ben, on essaie de réhabiliter l'énergie sexuelle comme étant une énergie de vie qui est belle, qui est noble, qui est célébrée, qui est naturelle, qui est pas honteuse, qui est pas coupable. Voilà. S'il y a bien une énergie où si le corps est bien ce dépositaire de toutes ces lourdeurs énergétiques, c'est bien dans sa conception de d'énergie sexuelle, de nudité, etc. C'est aussi l'événement qui, selon la Bible et selon l'inconscient collectif, aurait été le péché originel. Hein. Ils ont vu leur corps, ils se sont cachés, et ils ont été, ils ont goûté aux fruits de l'arbre de la connaissance, et ils ont été chassés du paradis. De la connaissance du bien et du mal, exact. C'est-à-dire la dualité. Alors, faire l'amour est un acte sacré. Et d'ailleurs, il y a un seul livre dans tous ceux que je vends qui n'est pas directement relié à la non-dualité, mais pourtant qui l'est. C'est le livre de Barry Long, hein, qui s'appelle « Faire l'amour de manière divine ». Donc il y a beaucoup à dire à propos de retrouver un regard pur à propos de cette énergie-là. Alors, je suis guidé simplement à lire les trois premiers paragraphes. Ce livre est une vraie merveille pour moi parce que chaque page que j'ouvre au hasard est remplie d'enseignements qui sont très, très parlants pour moi, très résonnants. Alors, Jésus dit, par Paul Ferrini, « Prendre plaisir à votre sensualité est essentiel au plein épanouissement de votre relation. Cela ne doit susciter en vous ni peur, ni honte, et doit au contraire être célébré comme un don de Dieu. » Ceux qui ont du mal à accepter leur propre sexualité cherchent à imposer leur dysfonctionnement aux autres. Ne faites pas attention à eux. Ils ont leurs propres leçons difficiles dans cette vie. La seule expression sexuelle répréhensible est un rapport sexuel dénué d'amour. Certains n'arrivent pas à se passer de cette forme de sexualité qui fait de l'autre un objet. Ils essayent de trouver leur satisfaction dans le plaisir orgasmique. Cela ne fonctionne jamais. Car après le paroxysme de l'orgasme vient le creux du contact existentiel avec le partenaire. Si vous aimez votre partenaire, ce creux sera un espace paisible et réconfortant. Sinon, vous aurez un sentiment de vide et de malaise. Voilà. Ce qui est dit d'essentiel pour moi, c'est la relation sexe et amour. Mettre l'amour avec le désir sexuel, avec l'acte sexuel. Et j'ai une chose dont je n'ai absolument aucune preuve, mais que je sens tellement vrai, c'est que le désir est d'ordre divin. Le désir, les mots, quand je me suis penché sur qu'est-ce que c'est le désir, deux mots seulement me sont apparus comme justes, et ces deux mots sont impulsion vivante. Et si je dis impulsion vivante, évidemment que ça parle de Dieu. Parce que la création, c'est l'impulsion de Dieu à étendre la vie. La vie avec un grand V, la seule vie qui ne connaît pas de début ni de fin, qui n'a pas d'opposé. Comme le bien sans opposé, la vie sans opposé. Donc à travers le désir en tant qu'humain, j'exprime le divin. J'exprime le désir de rayonner qui je suis par l'attirance que je peux sentir à me rapprocher d'autres personnes, à honorer ce vivant et à le partager dans une intimité. Et c'est pas pour rien que cette intimité sur Terre, elle peut aussi donner naissance à la vie sur Terre. Donc c'est bien sûr d'une manière limitée, c'est bien sûr d'une manière illusoire, mais nous avons choisi une expérience limitée. Mais ça reproduit dans des circonstances limitées ce qui existe de toute éternité et sans limitation dans la réalité. Dieu s'étend de lui-même en permanence et crée toujours plus. L'amour s'étend en permanence. Et c'est comme si à travers la sexualité, à travers le désir, nous avions l'intuition que c'est ça. Que le rappel, le souvenir de nous étendre en permanence par cette intimité, ce rapprochement. Alors comme dit Jésus dans ce petit passage, bien sûr l'ego, dans cette situation comme dans toutes les situations de notre vie, peut chercher à prendre le contrôle de l'amour, du sexe, de l'argent, de tout. Et peut utiliser l'autre comme un objet, en effet. Voilà. Et donc, comme on peut utiliser son corps et le corps de l'autre sans amour, et là, on génère des vibrations basses, plus difficiles à vivre. Et on peut utiliser son corps comme un outil merveilleux d'expression divine, avec amour, et avec ce corps célébrer le divin et célébrer l'amour. Donc, pourquoi avons-nous un sexe, hein? Est-ce que toi qui écoutes, toi qui es là, est-ce qu'un jour tu t'es posé cette question? Pourquoi nous qui sommes divins, nous avons cru bon dans ce rêve de naître en tant qu'homme, de naître en tant que femme, et puis de vie à vie, de s'amuser à changer de rôle, de sexe, de s'incarner tantôt en femme, tantôt en homme. Pourquoi, hein? Et dans le tantra, on dit cette chose merveilleuse. On utilise le deux pour se rappeler qu'il n'y a pas deux. Et le tantra, c'est la réunion du deux pour ne former qu'un. C'est pourquoi le masculin et le féminin s'attirent. Parce qu'ensemble, ils se complètent, ils forment, ils se dissolvent, ils s'unissent, ils fusionnent, ils deviennent un. Et oui, Odile, 1 plus 1 égale 1. Oui. Et on peut mettre autant de 1 qu'on veut, et ça fait toujours 1. Mais ça ne plaît pas aux scientifiques. Ils sont pardonnés d'avance. Hein. Jusqu'à ce que assez d'ouverture du cœur leur permette de constater cela. C'est pas au même niveau de perception que ça se passe. Donc oui, lorsque je fais l'amour avec amour, ou même lorsque j'autorise simplement le désir à être vrai, à s'exprimer, sans le réprimer, sans le retenir, alors je rayonne cette divinité. Je la donne à goûter aux autres. Parce que la vie qui rayonne, c'est attirant. Si je suis dans proposer le manque, c'est pas attirant. Il y a peu de gens qui sont attirés par le manque. Mais proposer le désir, la joie, l'amour, tout ça, ça rayonne. Tout ça, ça désire s'étendre tout le temps, communiquer, partager, étendre. Et c'est le propre de notre aspect divin, de Dieu. Donc évidemment que ça se célèbre, évidemment. Ça peut être une illusion, ça peut être une illusion très joyeuse. Nous pouvons amener le ciel sur la terre avec l'acte sexuel, en toute conscience. C'est-à-dire, je m'unis à toi et je te donne. Je te donne, je te donne. Voilà, ça m'émeut d'en parler. Je te donne tout, et quand je te donne, je reçois. J'ai pas besoin de prendre pour recevoir. Pour recevoir, dit le cours, donne tout à tous. Voilà, c'est une des manières pour recontacter notre essence, hein, de se rapprocher de l'autre en étant vrai, en baissant les masques momentanément, et en mettant le plus de conscience possible sur le sexe. C'est un instrument de plaisir, mais c'est aussi un instrument de conscience. Une fois je l'ai cité, dans les Lettres du Christ, hein, qui est aussi un très bel ouvrage non duel, le Christ dit dans une des lettres, il parle de la sexualité, il dit là, au moment de l'orgasme, l'âme monte jusqu'à Dieu et va et ramène une étincelle divine sous forme d'un plaisir extrême qu'est l'orgasme. C'est le plus haut plaisir qui nous est donné de vivre dans le corps. Voilà, c'est comme la révélation pendant un moment de qui nous sommes, ce plaisir-là. Tu veux un échantillon? Vas-y, expérimente. Et plus c'est fait en conscience, et plus ce plaisir peut se déployer, devenir magnifique et nous habiter, rester présent. Et plus c'est fait dans l'inconscience, et plus ce sera quelque chose d'anodin et qui laissera le sens profond du manque qui est là. Le manque de quoi? Le manque d'amour pour l'autre, le manque de conscience, le manque de présence. Donc, quoi que vous fassiez, faites-le avec amour. Hein, s'il y a bien un domaine pour rehausser la conscience, pour redonner la dignité, c'est bien l'énergie sexuelle, c'est bien le sexe, c'est bien le corps qui porte une charge telle de culpabilité de la part de beaucoup de religions, de gêne, de honte, le péché de chair, et puis voilà, c'est comme un fardeau qui nous est légué et qui, immanquablement, si nous y accordons notre attention, nous alourdit en termes d'énergie. Voilà, c'est pour ça que, à mon sens, le tantra existe, pour réhabiliter, redonner sa noblesse à cette énergie, et pour nous libérer aussi de cette croyance que cette énergie-là porte de la culpabilité en elle, et qu'il y a besoin de, nous avons besoin de nous racheter de ce péché de chair-là pour être admis au paradis. Voilà, alors, j'ai dit peut-être un nombre de blasphèmes à la seconde impressionnant.
Oui, merci Avi de me donner le micro. Non, j'avais juste une question par rapport à ce que tu viens de dire. Je te remercie parce que ça m'a énormément nourri justement sur cette question de la sexualité. Et en fait, je me demandais en fait par rapport au Tao de l'art d'aimer. Tu sais, le Tao de l'art d'aimer, les Chinois disent qu'il est bon de retenir l'éjaculation. Comment ça peut prendre, enfin, qu'est-ce que tu penses de ça, en fait, de ça en particulier? voilà, on est dans le désir, effectivement, on donne à sa partenaire. Et comment, en fait, ça peut s'imbriquer, en fait, dans ce que tu viens de dire, enfin, qu'est-ce que tu penses, voilà, de ça dans la sexualité, en l'occurrence? Ça m'intéresserait de savoir, en fait, quel est ton point de vue.
Alors, j'ai une seule phrase qui me vient immédiatement à l'esprit. Ce n'est pas ce que nous faisons qui importe, c'est comment nous le faisons. Puisque le but de ce que j'ai dit, c'est comment nous rappeler que nous sommes divins pendant notre vie terrestre. Hein. La sexualité est une porte comme bien d'autres chemins. Donc, éjaculation ou pas n'a aucune importance pour moi. Mais je peux le faire sans libérer l'éjaculation et puis rester complètement dans l'amour. Je peux le faire en libérant et rester dans l'amour, ou je peux faire ces deux-là en étant dans la conscience. Donc, c'est l'état d'esprit, hein, je dirais. Maintenant, il y a des croyances telles ou telles. Voilà, chacun fait ses expériences. Le but, pour moi, c'est d'appeler Dieu à être notre partenaire de la relation sexuelle. Je fais l'amour avec Dieu en ce moment, hein, quand je suis dans la relation. Ça devient une relation. Et bien, comment? Parce que mon état d'esprit voit l'autre comme divin, comme divinité. Et c'est pour ça que dans le tantra, il y a des rituels. Le rituel, c'est simplement une manière de dire ce que nous faisons est sacré. Nous appelons le divin à descendre. C'est juste une image, hein, bien sûr. Mais on dit souvent, le ciel viendra sur la terre. Donc, il ne s'agit pas d'ascensionner et d'aller quitter la terre et d'aller habiter au ciel, mais il est de plus en plus question aujourd'hui d'amener le ciel sur la terre, de mettre l'ombre et la lumière ensemble et de les aimer ensemble, de pas chasser l'ombre, de pas chasser l'inconscience. Pour devenir conscient, j'aime l'inconscience. Que devient la conscience quand je l'aime? Conscience. Puisque tout d'un coup, je deviens présent, conscient à ce qui ne l'était pas. Donc c'est fini. Que devient l'obscurité quand je mets le rayon laser, le projecteur, la bougie? Elle est partie. Où elle est partie? Nulle part. Elle était pas, la lumière n'était pas là. C'est pas que l'obscurité était là. C'est une absence, c'est pas une présence de, c'est une absence de lumière. L'inconscience est une absence de lumière et la peur est une absence d'amour. C'est simplement assez de blocage, assez de conditionnement pour apparemment empêcher l'amour et la conscience de briller. C'est important, hein, parce qu'il n'y a que l'amour. Il n'y a pas d'opposé à l'amour, mais je peux imaginer que dans la lumière, il y a des poches d'obscurité. Je peux l'imaginer. Ça ne leur donne pas, pour autant, une existence réelle. Je le vis, je le ressens, j'en fais l'expérience. Mais ce n'est pas réel pour autant. Hein? Seul l'amour est réel. Quand je fais confiance, une confiance aveugle, ça veut dire j'ai pas besoin de preuves, j'ai pas besoin de voir pour croire. Mais j'ai besoin de croire pour voir. Parce que quand je crois en l'amour, à ce moment-là, je commence à voir l'amour partout. C'est l'inverse du dicton. Donc, pour le monde de la raison, c'est des insanités, hein, ce que j'ai dit. Et en effet, l'ego est insane. C'est-à-dire, il a une vision distordue. Hein, et il est aussitôt pardonné, hein, puisque c'est le but de l'ego. L'ego, c'est la volonté de croire que le non-amour existe. Ben, c'est réussi. On peut dire, on l'a fait parfaitement pendant des millénaires, et puis maintenant, voilà, on a assez joué, et on a envie de revenir à la maison, parce qu'on a expérimenté plein de labyrinthes, plein d'impasses, plein de choses sombres. Il y a une phrase de je ne sais plus qui que j'ai lue sur internet qui me parlait bien, qui parlait simplement de créer une nouvelle société. Et il disait cette belle chose, il disait, nous sommes arrivés au bout d'une impasse, alors il faut tourner la page. Parce que, non, nous sommes arrivés au bout d'une expérience ratée. Alors nous devons tourner la page. Parce que nous sommes vraiment en face d'un mur et on ne peut pas avancer plus. Hein, on peut parler de la société, on peut parler du monde de la dualité, tout ça c'est la même chose. C'est ce que nous voulions tenter comme expérience. Que seraient les choses sans amour? Ou comment nous faire suffisamment confiance pour nous plonger dans une noire d'encre absolue et avoir confiance que nous arriverions à nous relever par nous-mêmes. C'est ça le défi de la dualité. Je trouve ça magnifique. Ça, c'est un extrait d'une des vidéos de Salusa qui me touche beaucoup en ce moment. Canalisée depuis Sirius, hein, par un humain. Voilà. Donc, le corps est un outil extraordinaire pour faire des choses extraordinaires dans un monde illusoire. Pour avoir des pensées et des actes d'amour qui sont vrais, parce qu'ils sont issus de l'amour, dans un monde qui n'est pas issu de l'amour. Donc, c'est le point de jonction dans lequel je peux me rappeler de ma nature divine tout en étant dans un contexte qui ne l'est pas, puisqu'il y a l'opposé de l'amour dans ce monde, puisqu'il y a la peur, puisqu'il y a les sentiments qu'on appelle négatifs. Donc, voilà, si je peux déjà pardonner au sexe et à l'énergie sexuelle toutes les pensées de séparation que j'ai à leur propos, si je peux voir la lumière qu'il y a dans cette énergie divine, alors je fais déjà beaucoup. Hein, parce que quand je redonne la dignité à l'énergie du sexe, je donne la dignité à l'énergie vivante. Et je me redonne une dignité d'amour, puisque je ne mets pas une part de moi séparément d'une autre. Hein, je redeviens un. Et notre but, c'est juste ça. Redevenir dans la perception, revenir dans la perception qu'il n'y a qu'un. Et on peut commencer par le corps, pour joyeusement lâcher l'idée du corps et garder cette perception qu'il n'y a que l'unité, il n'y a que ça. Et le corps est un tremplin pour ça. Hein, et c'est une voie magnifique d'exploration. Voilà, j'ai parlé.
J'ai l'impression qu'on a touché à un point délicat pour beaucoup d'entre nous, qui est latent, qui est sous-jacent, depuis très longtemps, depuis même la tendre enfance. C'est cette notion de nécessité du sexe, nécessité d'une expérience sexuelle, de rapport sexuel et d'orgasme. L'amour n'a besoin d'aucune expérience particulière. Tout à l'heure, Ravi nous parlait en disant, voilà, dans les lettres de Yeshua, on parle de la, comme s'il y avait un summum ou une expérience dans le coït, dans l'orgasme, qui s'approche de, disons, du nirvana divin. Enfin, c'est pas dit comme ça, mais. Alors, ici, tout est utilisé par l'esprit. Et comme Avi a dit après, il dit c'est pas important ce que vous faites, c'est comment vous le faites. Donc que ça soit bien clair, aucune expérience n'est nécessaire. On n'a absolument pas besoin d'avoir une relation sexuelle avec quiconque. On n'a pas besoin d'être en couple, homosexuel ou hétérosexuel, il n'y a besoin de rien. L'amour n'a besoin de rien. L'amour est infini, il est autogéré, autosoutenu. En anglais, self-sustained. Rien n'est nécessaire. Ce qui ne veut pas dire que le tantra, effectivement, n'est pas un instrument, un outil très fort, très puissant. Et le vrai tantra, c'est vraiment quelque chose qui débouche sur un lâcher-prise total, sur un amour, si, et qui passe, en fait, d'une manière naturelle, complètement au-delà du sexe, je veux dire, au-delà d'un besoin particulier sexuel. C'est un outil comme un autre, qui, effectivement, peut avoir des résultats étonnants pour telle personne et puis pas pour une autre. Ça n'a pas d'importance. Quand d'ailleurs vous pouvez avoir une expérience, une prise de conscience divine, lumineuse, j'aime mieux vous dire qu'on est vraiment au-delà de tout besoin d'une expérience particulière. Et il m'est arrivé, entre autres, j'en ai eu plusieurs, mais chaque fois d'ailleurs on a tous des expériences, vous avez pu remarquer, qui sont très diverses, très différentes. Il m'est arrivé un jour, justement, une expérience qui était vraiment extrêmement enseignant, d'une puissance, d'ailleurs je ne peux même pas la raconter tellement c'était puissant, mais tellement ça a été fulgurant et rapide. J'ai trouvé un soir dans le sud-ouest chez une de mes amies, une belle propriété, et il y avait là une jeune Canadienne avec un physique tout à fait quelconque, avec mes critères de l'époque, mais je me suis mis à parler avec elle. Et pendant que l'hôtesse, mon amie, nous préparait à dîner à tous les trois, et je me suis mis à parler du courant miracle, du livre donnant un courant miracle, de toute la spiritualité qui me tenait à cœur. Et en me disant tout d'un coup, mais pourquoi je te dis ça? Pourquoi je te parle de ça? Et cette femme qui n'avait aucun... Non, mais continue, ça m'intéresse, continue, me dit-elle. Et donc j'ai continué comme ça, de manière complètement informelle. Et puis nous sommes passés à table, on a dîné, et tout d'un coup j'ai commencé à sentir un amour pour cette jeune Canadienne, cette femme qui était là, qui ne m'attirait pas du tout a priori au départ, mais un amour, mais hallucinant, quelque chose de inracontable, je n'ai aucun mot pour le décrire. Et c'est comme si j'étais à la maison, comme on dit, I was home, j'étais à la maison, j'étais dans la plénitude, donc sans aucun besoin particulier. Le sexe était inclus, mais il n'y avait aucun désir de la rejoindre dans sa chambre. On avait tous une belle chambre là, dans cette grande propriété, c'était un château, genre les châteaux. Et donc j'ai été m'endormir avec cette plénitude, ce bonheur ineffable, indicible, où il n'y avait aucune idée, aucune envie d'avoir une action particulière. Et je ne veux pas raconter cette expérience tellement elle était d'un autre ordre, et en même temps elle était là, ici, dans cette expérience humaine. Et je me suis endormi comme un enfant. Et le lendemain matin, je me suis réveillé. Tout avait disparu. Tout. J'oublierai jamais. Qu'est-ce qui fait ça? L'esprit. L'esprit que nous sommes, c'est moi qui crée ça. Alors, où est l'expérience nécessaire? Où est un acte particulier qui serait nécessaire, comme un orgasme, par exemple? Non. C'est utilisé, bien sûr. Ça peut être utilisé d'une manière fabuleuse, très enseignante. Ça n'est qu'une expérience. Et qui nous sommes, c'est au-delà de toute expérience. Souvent, c'est les choses les plus fortes en amour, en éclairage intérieur. Ce sont des choses qui souvent durent, sont très courtes. Mais c'est indélébile. Ça reste. Le cours en miracle parle de ça dans ce qu'il appelle l'instant saint. On en parle souvent ici, et l'instant saint, le cours en miracle en parle comme étant un instant où on transcende le temps et l'espace, comme si on passe au-delà de ça, dans une vision intérieure, on va dire, dans un état de conscience. Mais il parle bien d'instant saint, et ensuite on revient dans le monde pour communiquer. Et communiquer comment? Avec des termes, comme dit le cours très précisément, des termes qui sont compréhensibles par le monde. Et qu'est-ce que le monde, au sens du courant miracle? C'est l'ego, c'est le monde de la séparation. Et donc dans ce monde de la séparation, on emploie des termes duels, c'est-à-dire des termes séparés. C'est ok, On est là pour ça. On est venu pour ça. Mais on le fait avec amour. On laisse les formes, les mots passer à travers nous. On sait que c'est un rêve, on sait que c'est pas réel, ça n'a pas de valeur en soi. En revanche, l'esprit qui s'occupe de tout sait très bien ce qu'il fait. Et c'est là qu'on commence, on aborde ce qu'on appelle le plan divin, qui est quelque chose d'hallucinant, tellement c'est incroyablement merveilleux. Où ça comprend tout, toutes les relations, tout à la fois, instantanément. Tout est vu dans l'univers entier. Chaque atome, chaque relation, chaque interaction, tout est vu ensemble, immédiatement. Comme un corps humain, comme tu dis. Rien n'est nécessaire, tout est utilisé par l'esprit. Et effectivement, les outils que nous avons à notre disposition sont innombrables. Alors on va dire, mais lequel choisir? J'ai confiance que l'esprit sait très bien ce qu'il fait et que chacun d'entre nous suit un chemin parfait, à tout instant, hautement individualisé, puisqu'il est différent, chaque chemin est différent, mais il est parfait. Il est parfait en fonction de la liberté que nous avons tous, du jeu que nous avons choisi de jouer, ce jeu de la séparation. Dans ce jeu, nous sommes guidés à tout instant, sans faille, pour nous rappeler qui nous sommes. Ce qui fait qu'on ne peut pas oublier. La lumière peut être obscurcie, atténuée, mais elle est là, et nous sommes la lumière. Donc il n'y a pas besoin d'une expérience particulière. Mais l'expérience que nous vivons chacun à tout instant est parfaite et fait partie de ce plan parfait. Évidemment, ça implique un lâcher-prise total. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous apprenons, à être en lâcher-prise. Tout à l'heure, Avi parlait du désir. Effectivement, sans désir, il n'y a rien. Donc le désir fait partie de la dynamique de l'amour. Et l'amour qui est ce que nous sommes, qui est qui nous sommes, bien, le désir c'est de donner, c'est de s'étendre, c'est de partager, c'est d'être heureux ensemble par des relations, dans ces expériences duelles. C'est pour ça que nos relations sont si importantes. Et c'est pour ça que ces fameux commandements, qui sont d'ailleurs pas des commandements à faire, mais qui sont des observations de fonctionnement, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, parce qu'il n'y a que Dieu est tout ce qui est, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ça veut dire tu aimeras ton prochain et toi-même. C'est la même chose. Parce qu'on peut dire, mais si j'aime mon prochain comme moi-même, si je m'aime pas, effectivement, comment je peux aimer mon prochain? C'est vrai. Donc il faut que je m'aime moi-même. Mais pour m'aimer moi-même, si j'aime pas mon prochain, si j'aime pas l'autre, ça marche pas non plus. Donc c'est la même chose. C'est pour ça que Jésus disait, tu aimeras donc ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces. Et le second commandement, ça c'est le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais les deux sont semblables, disait-il, c'est la même chose. Parce qu'en fait, il n'y a que Dieu, Dieu est tout ce qui est. Et nous sommes l'expression de Dieu, donc nous sommes créateurs, nous sommes esprit créateur de notre expérience. Où nous avons joué à imaginer d'être séparés. C'était amusant au départ. Maintenant, évidemment, c'est tellement bien fait que nous voilà apparemment perdus dans ce jeu. Et puis on appelle au secours et on dit on n'est pas bien ici. La plupart du temps, pas toujours, parce qu'il y a des moments, évidemment, sans ça on ne pourrait pas supporter d'ailleurs. C'est bien fait parce qu'on a quand même des petites illusions d'être bien, et puis c'est très bien d'ailleurs, parfait. Parce que c'est notre âme profonde qui veut se rappeler qui nous sommes. Et souvent nous avons l'impression que le bonheur que nous demandons ne nous vient pas. Et on dit, mais pourquoi? Donc on est victime de quelque chose. Pourquoi est-ce que ce bonheur apparemment que nous désirons, et qui en fait notre héritage, c'est qui nous sommes, pourquoi est-ce que ça semble pas nous venir? Parce qu'en fait nous le bloquons. nous le bloquons par nos croyances et nous sommes tout puissants. Donc c'est pour ça que ça semble prendre du temps, c'est parce que ces croyances qui bloquent ce bonheur incroyable que nous sommes, eh bien, sont en train de disparaître progressivement. Par quelle action ? Par l'action du plan parfait divin, qui respecte en même temps notre totale liberté. Donc il y a un paradoxe formidable entre une autorisation d'imaginer même d'être séparé, ce qui est impensable, ce qui n'a pas de sens, mais c'est ok, hein. Dieu dit oui à tout, Dieu c'est nous, on dit d'accord, on joue. On joue la séparation, on crée un jeu fantastiquement génial, où la séparation semble bien réelle, et apparemment on est piégé dedans. Mais voilà que, en même temps, deuxième volet, il y a ce plan divin qui a tout en main à tout instant, et qui est totalement serein. Et ça, c'est notre âme profonde, qui simplement s'amuse à avoir des expériences. Et on commence à nous dire, mais ça nous est très difficile, nous humains, de comprendre ça, qu'en fait, ce jeu, il a un sens dans les univers. Et on est en train de nous dire que ça va permettre la création d'autres mondes extraordinaires. Très bien. On nous dit aussi que dans cette galaxie, ici, où nous sommes, eh bien, cette aventure de rappel de qui nous sommes dans une telle noirceur, ça n'avait jamais été fait. En revanche, on nous dit maintenant, on a des informations, que dans d'autres galaxies, ça avait été fait. Quand on voit que notre galaxie ici, alors qu'il y en a 350 milliards dans l'univers, mais notre galaxie est gigantesque, puisqu'elle comporte 240 millions d'étoiles, donc de systèmes solaires, 240 milliards, ce qui est absolument gigantesque. Donc, voilà. Nous sommes effectivement, nous faisons partie d'un plan mais qui est gigantesque, d'une manière hallucinante, qu'on ne peut même pas imaginer, et on s'occupe de l'endroit où nous sommes, on s'occupe de notre expérience ici, humaine, et maintenant de plus en plus terrestre et extraterrestre, puisque nous sommes en relation avec d'autres êtres, dans un jeu relationnel fantastique. Et qu'est-ce qui nous importe maintenant? Qu'est-ce que nous ressentons les uns les autres? Pourquoi est-ce que nous sommes attirés et que nous sommes de plus en plus attirés avec ces contacts extraterrestres? C'est parce que nous sentons de l'amour. Il n'y a que ça qui a un sens. C'est l'amour que nous partageons ensemble. Ce n'est pas les technologies qui vont éventuellement, qui vont sûrement même nous arriver. Mais ça arrive que comme, parce qu'en fait nous sommes prêts, parce que nous avons assez d'amour exprimé. Parce que notre âme profonde n'a pas besoin de la technologie. Notre âme profonde ne connaît pas la mort. Elle le sait très bien. Elle n'a pas besoin d'avoir une planète qui se nettoie avec des déchets nucléaires qui disparaissent, avec des nouvelles manières de vivre ensemble, etc. L'âme n'a pas besoin de ça. L'âme, elle veut retrouver qui elle est. Elle expérimente simplement. Mais la joie de se retrouver, la joie de se reconnaître, la joie tout d'un coup de se réveiller ensemble, c'est extraordinaire. Et c'est ça le but de ce jeu. Et c'est pour ça que le jeu change. C'est-à-dire qu'avant, le but du jeu, c'était la dualité, c'est l'énergie du deux. On en a déjà parlé ici, mais on le redit ici. L'énergie du deux, c'est le système immunitaire où l'ennemi est cerné, il est neutralisé. Voilà, alors l'ennemi, le virus ou autre chose, c'est cerné, c'est neutralisé. Ça, c'est l'énergie du deux, c'est l'énergie duelle. C'est l'énergie de la séparation, c'est ok, c'est un jeu. À l'époque actuelle, nous nous réveillons dans l'énergie du 3. Ça, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est la nouvelle façon d'être ensemble. C'est le 1 plus 1, et c'est 1, c'est 1, c'est encore 1, et c'est toujours 1. Comme disait tout à l'heure Odile. 1 plus 1, ça fait 1, et 1 plus 1 plus 1, c'est encore 1. Et c'est toujours 1. Ça, c'est l'énergie du 3. Tout ça, c'est évidemment des façons de parler. Et l'énergie du 3, c'est que l'ennemi est... On entend parler d'ennemi. On voit une apparence d'ennemi. Il est totalement aimé, il est absorbé, il est intégré, il est moi. Et donc l'ennemi a disparu, il n'y en a jamais eu. Voilà, c'est l'énergie du réveil à qui nous sommes. Il n'y a pas eu d'ennemi, il n'y avait rien. Et dans la bataille des t-shirts blancs et des t-shirts noirs, où tout le monde se demande qui va gagner, on nous dit maintenant, effectivement, c'est les forces de la lumière qui vont gagner, et puis qui... Très bien, ça c'est une apparence, et c'est ok, ça fait partie du jeu. C'est un jeu dans le rêve. Mais en réalité, la question qui va gagner la bataille entre les t-shirts blancs et les t-shirts noirs, la réponse est évidemment c'est les t-shirts blancs parce qu'il n'y a jamais eu de t-shirts noirs. Comme dit le courant miracle, vous êtes dans une guerre où il n'y a pas d'opposants. vous imaginez être en guerre, il n'y a pas d'opposant. 1 + 1 = 1 = 1, c'est toujours 1, il n'y a que vous-même. N'oublie jamais, dit le cours en miracle, n'oublie jamais que tu ne rencontres que toi-même. N'oublie jamais que tu ne rencontres que toi-même. Et qui tu es, c'est la magnificence de qui je suis, dit Dieu, dit la vie, dit l'éternel.
Hier, j'étais chez le coiffeur et puis, en arrivant, il y avait une dame, absolument pas souriante, pas accueillante, avec un produit violet sur la tête. Et puis, ensuite, on s'est retrouvés l'une à côté de l'autre, à être coiffés. Et progressivement, s'est révélé à moi toute sa magnificence. C'est-à-dire qu'elle était belle telle qu'elle était. Et depuis quelque temps, c'est vrai que je cherche en chaque personne à ce que sa déité soit révélée, me soit révélée. Et c'est magnifique à vivre. Derrière le masque, d'attendre que ça se dévoile, c'est magnifique. Tout à l'heure, j'étais au feu, et puis il y avait un monsieur qui venait à chaque fenêtre pour demander de l'argent. Et j'avais que des pièces de 5 centimes, 10 centimes. Alors, je lui sors tout ce que j'avais du porte-monnaie, et puis je lui montre que j'ai rien pour lui. Puis il me fait comprendre que il veut bien quand même. Alors je lui donne. Et en fait, après, il a mis sa main sur le cœur. Puis on s'est regardé, c'était magnifique à voir, à sentir. Et après, c'est moi qui, au fond de mon cœur, lui ai dit merci pour ce grand cadeau. Ce grand cadeau qu'il m'a fait.
Et parfois, moi, je m'entraîne à voir au-delà des apparences. Rarement, je prends le métro, mais quand je le fais, de temps en temps, je regarde le wagon entier, je me dis à l'intérieur, tous des dieux. Et j'essaye de voir ce que mon ego place de côté en disant, oui, mais pas lui quand même. Si, lui aussi. Ah, mais pas cette personne bien en chair. Si, elle aussi. Alors, parfois, ça prend un petit temps jusqu'à ce que le regard puisse changer. Et ce temps, il correspond pour moi au calme qui est nécessaire pour que la surface du lac qui était agitée redevienne calme, redevienne limpide, que les eaux redeviennent limpides parce qu'elles ont été agitées. Et notre ego, en fait, c'est l'agitateur des eaux limpides. Pourquoi dans ces réunions comme celle d'aujourd'hui et toutes les autres réunions qui sont basées sur notre vérité, donc il y en a de multiples, pourquoi avons-nous la plupart du temps l'impression que quelque chose descend sur le groupe, quelque chose de doux, de tranquille, mais en même temps de très bénéfique, de très accueillant, de très doux, de très aimant. Parce que nous arrêtons de jeter des cailloux dans la mare, dans l'étang. Et à la question « Où est l'amour ?», la réponse est « Partout ». Partout, j'arrête d'agiter. J'arrête de brasser les événements. Et je les laisse se produire en les embrassant plutôt qu'en les mettant dans des catégories. Donc je peux surveiller mes pensées. Et puis, donner du poids, donner mon accord aux pensées vraies, aux pensées justes, et laisser aller les autres, ça demande de l'entraînement. Et laisser aller, ce n'est pas s'opposer. C'est, bon, ben là, je suis dans le jugement, cela aussi passera. Là, je suis dans la peur. Cela aussi passera. Là, je suis dans le désir de me venger. Cela aussi passera. Mais l'amour ne passera pas. Donc quand je laisse passer ces choses temporaires qui m'agitent de temps en temps, ça peut prendre 10 secondes, ça peut prendre 10 ans. Mais ça passera. Si je suis grippé, ça aussi passera. Une semaine plus tard, avec ou sans antibiotiques, ça passe. Si je me fixe contre la grippe, si je m'oppose à la grippe, d'une certaine manière, j'alimente l'énergie de « je suis malade ». Quelques mots qui suit « je suis » est puissant. Et ça déclenche la grande photocopieuse de l'univers qui me dit « combien d'exemplaires tu en veux ? Appuie sur le bouton par 10, par 100. Tu veux encore une petite semaine de grippe ? Appuie sur le bouton. Voilà. Et je suis dans l'abondance aussi. Combien d'exemplaires ? Bouton vert, hein, tu appuies. L'univers exécute, photocopie tout ce qui suit, je suis. Donc, le changement de regard, il est intérieur, hein, il est vraiment intérieur. Et c'est pas ce que je fais, encore une fois, c'est comment je le fais. Et puis de temps en temps, ben, je suis guidé dans le métro à ne pas me plonger dans un livre, à ne pas écouter de la musique, à ne pas être noyé dans mes pensées, mais simplement à être là, à accueillir par le regard les personnes qui entrent dans le wagon, à embrasser leur réalité, à accueillir par le regard le voisin, la voisine, éventuellement à croiser les yeux, et simplement être un espace d'instantanéité, d'intuition précieux, de découverte, de surprise, qui ne peuvent se dérouler que dans l'instant et dans la volonté qui est, je ne cherche pas à m'échapper de l'instant présent. Et quand je dis l'instant présent est, instantanément, je quitte aussi le mental, parce que le mental ne peut pas exister dans l'instant présent. Il se réfère tout le temps à ce qui va arriver ou à ce qui s'est déjà produit. Mais dans le moment présent, disait Krishnamurti, il n'y a absolument aucune peur. C'est impossible d'avoir peur dans l'instant présent sans la relier à une mémoire ou sans la relier à une projection. Donc c'est intéressant, hein, revenir à l'instant présent, c'est redevenir comme Dieu. Cela est et Dieu est, c'est la même phrase. Cela, c'est toute l'existence du moment présent. La personne entre dans le wagon, c'est la totalité de mon expérience à cet instant-là. Et je suis 100% présent. Et je peux être guidé à réagir, à pas réagir, peu importe. C'est ce que je vis. Donc, dans ces réunions, nous appelons le calme. Et dans le calme, la conscience de la présence de l'amour revient à toute vitesse. Pourquoi ? Parce que nous cessons d'alimenter l'agitation. Pourquoi ? Parce que nous nous rappelons qu'au fond de nous-mêmes, nous avons profondément envie d'être calme, envie d'être heureux et heureuse. Ce calme-là, c'est notre bonheur. Il n'y a rien besoin dans ce calme, c'est complet. Et nous nous rappelons aussi que dans ce calme, ben, notre nature se révèle pleinement. Donc il ne s'agit pas de chercher l'amour. Il ne s'agit pas d'aller à l'extérieur faire des choses. Il s'agit de permettre que l'amour s'exprime. Permettre, c'est arrêter de s'opposer à. C'est arrêter d'agir. C'est pour ça, entre autres, que on peut se retirer pour méditer. C'est pour ça qu'au milieu d'une crise, d'une chose difficile, prendre un instant de retrait avec soi-même, ça peut être extrêmement ressourçant pour être guidé à agir d'une manière juste et non pas sous l'emprise des émotions. Et dans ce calme-là, je suis assuré que je suis connecté à ma nature profonde. Ça peut prendre un moment avant que ça soit réellement calme, avant que les eaux retrouvent leur profondeur et limpidité. Et moi, j'ai une scène mémotechnique que je donne de temps en temps dans les groupes de méditation. Quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez, imaginez que vous êtes un grand lac de montagne avec des eaux bleues et pures, profondes, profondes. Et même si le vent ride un peu la surface, et même si il pleut et il y a des gouttes qui créent des perturbations, descendez dans la profondeur du lac. Descendez, descendez, descendez. Descendez à 100 mètres, descendez à 200 mètres, descendez à 300 mètres. Quel que soit l'état de la surface, à 300 mètres, c'est toujours complètement tranquille. À tout moment dans votre vie, vous pouvez vous réfugier dans cet endroit tranquille en vous qui ne vous quitte jamais. Vous le portez en vous. Et je laisse tout ce qui est apparemment agité et j'entre dans ma profondeur et dans cette pureté, dans cette limpidité des eaux, je suis moi-même. Et dans ce calme-là, si j'ai besoin d'un mot, il me sera donné. Si j'ai besoin d'une intuition, elle me sera donnée. Si j'ai besoin d'une guidance à agir, elle me sera donnée. Si j'ai besoin d'une guidance à ne rien faire, également, elle me sera donnée. Donc, j'ai un chez-moi qui est dans mon cœur, qui est profond, qui est hors du monde, et dans lequel je peux me retrouver juste en décidant de plonger dans mon intériorité sacrée, dans ce qui n'est jamais perturbé. Voilà, beaucoup disent que les divinités ont cherché à cacher la divinité de l'homme et ils ont essayé en maints endroits, mais finalement ils ont préféré la cacher à l'intérieur de l'homme parce que c'est là où il ne pensera pas aller chercher. Le moment est venu de nous tourner vers l'intérieur. Tout simplement parce que nous ne pouvons pas perdre ce trésor qui est caché en nous. Puisqu'il n'y a que lui qui existe. Il est invulnérable et a toujours été et sera toujours. Il est qui je suis et tout le reste est une manière de jouer à autre chose. Et quelle que soit la situation dans la vie, si elle est pénible, si vous êtes en couple et que vous vous disputez, ne restez pas en face de la perturbation. Retirez-vous. Retirez-vous et faites un séjour au plus profond du lac. Vous ne pouvez pas le perdre. Il ne peut pas ne pas être en vous. Autorisez-vous à quitter la situation. Et quand vous êtes perturbé par le jugement de quelqu'un, j'ai peut-être des choses qui me viennent, mais j'attends un peu. J'attends un peu parce que mon ego m'inspire l'attaque. Et lorsque je me retire en moi, je pourrais voir qu'à travers ce que l'autre me renvoie qui me semble difficile, l'autre me dit « Je me sens pas aimé. » Alors je te le renvoie très maladroitement. je te le projette. Je le projette sur toi, très maladroitement. Et donc j'exprime un appel à l'amour, un appel à ce que tu m'aimes. Si je me sentais aimé, je n'aurais absolument aucune raison au monde pour t'agresser. Au contraire, j'ouvrirais les bras et nous ririons ensemble comme des frères et sœurs qui se retrouvent après une longue séparation. Et donc, évidemment, l'autre qui m'agresse se sent coupé de sa source d'amour. Et quand je peux entendre ça, quand je peux entendre dans son apparente agression son appel profond à être aimé, à être connecté à l'amour, c'est plus possible de l'attaquer. C'est plus possible de renvoyer quelque chose de désagréable ou un jugement. Et moi j'appelle ça, je me mets dans ses baskets. Comment je me sentirais maintenant à sa place et de quoi j'aurais le plus besoin maintenant pour me sentir mieux? Pas d'amour. Qu'est-ce qui compte le plus au monde? D'être heureux et d'être aimé et d'aimer. Ce changement de regard, c'est le pardon, le vrai pardon. Toi qui sembles m'agresser, tu es mon frère d'amour, tu es ma sœur d'amour. Et je reconnais ton besoin profond d'être connecté à la seule source qui soit. Et j'honore ce besoin profond malgré les apparences, malgré le jeu que tu joues. Et je reconnais le jeu pour ce qu'il est, c'est-à-dire non réel. Et lorsque je le reconnais, je peux rire avec toi. Et je peux ouvrir les bras et te retrouver, même si ça se passe que dans mon état d'esprit. Je pardonne à l'intérieur pour changer le monde et pour changer ma vision. Et quand ma vision change, assurément, ma perception du monde change aussi. Donc le premier pas est le début, le premier pas est la fin. Le premier pas est le seul pas, disait Krishnamurti, et moi je rajoute, le seul pas est un changement de vision à l'intérieur. Je laisse l'extérieur complètement inchangé. Il changera par voie de conséquence, ce n'est pas à moi d'agir sur l'extérieur. Mon rôle à moi, c'est de changer mon état d'esprit. Oui, cher frère d'amour, chère sœur d'amour, tu as voilé ta lumière, mais je n'ai pas oublié qui tu es. Je perçois à travers l'obscurité que tu sembles émaner, je perçois ta lumière qui n'est pas complètement masquée, et j'honore cette lumière en retour. Et nous nous réjouissons d'être tous les deux cela. Et je ne peux plus porter aucune blessure lorsque j'ai retrouvé la lumière de ce frère et ma propre lumière à ce moment-là. Et le monde est pardonné. En même temps que ce frère et que moi-même, je me suis pardonné d'avoir cru que je pouvais être attaqué, que je pouvais être vulnérable, qui est aussi une fausse pensée. Et la leçon que j'ai tirée dans le panier, 342, je laisse le pardon se poser sur toute chose, car ainsi le pardon me sera donné. Et quand je pardonne la situation, quand je pardonne le frère, c'est moi aussi que je pardonne. Il n'y a pas de séparation. Je pardonne mon frère comme moi-même. Et nous rions tous les deux, puisque rien ne s'est produit dans la réalité. Et le calme que je peux contacter à ce moment-là, cette lourdeur qui s'est envolée, cet éclat de rire qui surgit, c'est ma vraie nature. Mais ce qui m'appartient, c'est de l'appeler, de me retirer, de l'inviter à se révéler à moi. Et quelle que soit la situation, c'est toujours possible, même 10 minutes après, même 10 jours après, même 10 ans après, même 100 vies après, c'est toujours possible de se rappeler de la réalité, de la lumière qui était là, bien masquée dans cette situation. Et quand je fais ça, comme disait Sylvain, je guéris le passé, je guéris la situation, je me guéris moi-même et je guéris toute l'humanité, toute la filialité, puisqu'il n'y a qu'un, il n'y a pas 7 milliards, il y a 7 milliards de facettes de l'un, qui sont toutes interconnectées et guéries ensemble lorsque moi je guéris ma perception fausse que l'autre pouvait me nuire, que l'autre pouvait me rendre triste ou vulnérable. Je nous aime.
Hier, je disais à Sylvain que je n'étais pas douée pour les langues. Mais j'étais sûre de comprendre. De la même manière que j'écoute le chant des oiseaux, je comprends pas et en même temps je comprends. Et dans le silence qui s'est installé après qu'Avi ait parlé, je ne sais pas si dans ce micro, donc monodirectionnel, vous avez pu entendre des raclements. Et ces raclements, ils ont plein de choses à dire. Et si la personne qui les exprime voulait bien que j'approche ou qu'elle prenne le micro pour les dire, tout simplement, exprimer ces raclements de gorge, ils exprimeraient plein de choses pour nous tous.
Je pense que vous pouvez, vous qui écoutez l'enregistrement, comprendre qu'il y a une émotion qui est en train de monter parmi les participants autour de la table. Donc si vous le voulez, nous pouvons former un cercle. Vous savez que l'amour que nous sommes transcende le temps et l'espace. Nous pouvons former un cercle maintenant et nous rejoindre. En nous remerciant les uns les autres du rôle parfait que nous jouons les uns pour les autres, les uns avec les autres.
Alors je sens que nous sommes dans un cercle de guérison, que des choses puissantes sont à l'œuvre, et il me vient de dire ceci: il n'y en a pas un parmi nous qui soit moins digne d'amour qu'un autre. Toutes ces pensées fausses sont pardonnées dans ce cercle et maintenant. Chacun d'entre nous est le reflet de la source radieuse d'amour. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Quelles que soient mes croyances à mon propre sujet, je ne peux jamais être indigne de l'amour que je suis. Je représente l'amour. Je suis l'amour. Et je me pardonne de toutes les pensées fausses que j'entretiens à mon propre sujet. Il n'y a que l'amour. Je suis donc ça. Et l'espace de guérison, c'est l'espace de reconnaissance qu'il n'y a que ça, que je ne peux percevoir que l'amour. Même s'il est masqué par de profondes croyances, par de profondes distorsions, je pardonne les croyances, je pardonne les distorsions, et je reconnais ma profonde vérité, ma profonde dignité. Nous sommes un. Personne ne peut résider hors de l'amour. Et si un seul est amour, tous sont amour. Et Dieu est cet amour, et nous sommes Dieu. Sans aucune exception. réjouissons-nous que de fausses pensées soient nettoyées par de vraies larmes, par l'espace du cœur qui est touché, que de fausses certitudes soient ébranlées, aimer n'est pas difficile, c'est résister à l'amour qui est difficile. Aimer, c'est se détendre totalement, autoriser totalement à être qui je suis. L'amour permet tout. L'amour guérit tout. L'amour transcende tout. Parce que l'amour est tout. Que je lui reconnaisse ce pouvoir, et dans cette reconnaissance est ma guérison. Comme nous entrons dans une période de profonde vérité, de levée du voile, de révélation, il est de moins en moins possible d'être en complaisance avec tout ce qui n'est pas amour, avec tout ce qui n'est pas lumière, avec tout ce qui n'est pas léger. Et de plus en plus, je peux m'autoriser à aimer les parties de moi qui vibrent un peu moins fort, à les chérir, à les embrasser, à les entourer de ma lumière. Et c'est toujours de moi à moi que je le fais. Et je suis l'espace de guérison. Et je suis la guérison en même temps. Et je retrouve ma dignité en reconnaissant que je ne l'ai jamais quittée. Juste un peu endormi et oublié. Mais elle est là. Et elle a toujours été là. Je suis dans ma gloire totale. Inattaqué, inattaquable. Invulnérable et complète. Et le temps est venu de me le rappeler. De baisser toutes les barrières qui m'empêchent de percevoir la présence de l'amour tout autour de moi, dans chacun de mes atomes et dans chaque molécule que je respire. Tout est saturé d'amour et de conscience. Merci à l'esprit d'avoir initié un groupe aussi touchant. Un cercle de guérison que je me plais à honorer. Et le cercle de guérison aussi est bien plus grand qu'il n'y paraît. Sois béni, cher frère de lumière, chère sœur de lumière, présent ici ou qui écoute. Reçois aussi la présence de l'amour qui est là tout le temps. Et sur ces mots, nous terminons.